Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Comment enseigner l'histoire de la Shoah? Comment transmettre la notion de crime contre l'humanité? Comment expliquer les mécanismes qui ont amené à la Shoah et éduquer les populations à mieux les repérer? Ce sont les questions auxquelles tente de répondre le mémorial de la Maison des Enfants d'Izieux, un mémorial qui a trouvé sa place dans les bâtiments de la colonie où ont séjourné les enfants cachés pendant la guerre. Mais le 6 avril 1944, sur l'ordre de Klaus Barbie, les 44 enfants restés à la colonie seront raflés, puis déportés et exterminés avec leurs 7 éducateurs, dont seule survivra Léa Feldblum et Sabine Zlatin, absente ce jour-là, et qui est à l'origine de ce lieu de mémoire. La Maison d'Izieux aujourd'hui se concentre sur la transmission du souvenir de l'histoire et à l'élaboration de méthodes pédagogiques. Elle reçoit de nombreux scolaires et forme également les enseignants à préparer des voyages scolaires sur les lieux de l'extermination. Avec nous pour en parler, Pierre-Jérôme Biscara, qui fait partie du service pédagogique de la Maison d'Izieux et qui travaille sur l'histoire et la mémoire de la rafle. Il est l'auteur d'un article, « Les activités pédagogiques de la Maison d'Izieux », dans le dernier numéro de la revue d'histoire de la Shoah, consacré à l'enseignement de l'histoire de la Shoah, qui paraît aux éditions du Mémorial de la Shoah. Pour commencer, je voudrais, Pierre-Jérôme Biscara, qu'on revienne sur l'histoire de ces enfants d'Izieux. Et pour cela, peut-être qu'il faut commencer par évoquer les itinéraires de ces enfants cachés par leurs parents et par les réseaux d'aide d'organisation de secours aux enfants, l'OSE, et par d'autres réseaux.
C'est une maison d'enfants qui est créée par l'œuvre de secours aux enfants au mois de mai 1943 et qui accueille des enfants qui, pour la plupart, ont été sortis des camps d'internement. La date de la création, c'est mai 1943. La date de l'arrestation, c'est 6 avril 1944. Et durant toute cette période, la maison va accueillir plus de 105 enfants. Et le 6 avril 1944, date de la RAF, il y en a 44 qui sont arrêtés. Mais il y en a plus de 60 qui sont passés par la maison d'Izieux. Et la maison d'Izieux a été un moment, finalement, plutôt un lieu de passage finalement, et de sauvetage pour ces enfants. Et ceux qui n'ont pas été arrêtés, soit se sont réfugiés, on va dire, dans les zones alpines, soit ont passé la frontière pour aller se réfugier en Suisse, où certains ont rejoint leur famille. Voilà. Tous ces enfants sont nés de parents étrangers, voilà, originaires d'Europe de l'Est.
Et d'ailleurs, on ne se rend pas toujours bien compte, Pierre-Jérôme Biscara, mais il y a quand même beaucoup de réseaux qui se sont mis en place pendant la guerre pour sauver les enfants en particulier, que ce soit des réseaux juifs ou des réseaux protestants ou hors toute religion.
Oui, et notamment beaucoup d'œuvres, on va dire, caritatives, d'entraide en tout cas, œuvres dans les camps d'internement. Il y a le Secours Suisse, les Quakers américains qui vont jouer un rôle assez fondamental en faisant obtenir des visas pour les enfants, pour l'immigration pour les États-Unis. Et donc Sabine Zlatin est l'une des assistantes sociales qui travaille à la fois pour les services de la préfecture et pour le compte de l'œuvre de secours aux enfants.
Voilà. Et ce dont on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, Pierre-Jérôme Biscara, c'est comment, lorsqu'on connaît les lois de Vichy, quand on connaît le statut des Juifs qui est mis en place par Vichy, comment expliquer que ces structures ont pu néanmoins se mettre en place?
Parce que la plupart, elles sont toutes légales. C'est-à-dire que ce qui importe pour Vichy, c'est de contrôler et ensuite d'exclure. Mais Vichy, finalement, la structure des camps d'internement, ils vont être très vite débordés par la gestion des enfants. Et ils vont permettre finalement à des assistantes sociales, des infirmières, de rentrer dans le camp pour s'occuper de ces enfants, mais dans la plus parfaite légalité. Et le génie de certaines de ces femmes, de ces organisations, ça va être de finalement pouvoir sortir les enfants des camps et ensuite faire perdre leurs traces de maison d'enfants ou de famille en famille. Voilà. Mais au départ, tout se passe de la manière la plus légale qui soit.
Et il y a donc une sensation d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout, les personnes commencent à se rendre compte qu'il faut effectivement qu'il y a un danger et qu'il faut vraiment protéger, cacher les enfants.
Oui, tout à fait. Enfin, d'abord, avant de les cacher, en tout cas, il faut s'occuper d'eux parce que la vie dans les camps d'internement est absolument déplorable, inhumaine, manque d'hygiène. Et les premières, finalement, personnes à décéder dans ces camps, c'est les personnes âgées et les enfants. Et donc très vite, ils vont s'organiser et essayer de sortir le maximum d'enfants donc pour pouvoir les placer dans ces colonies ou dans des familles d'accueil. Et ensuite, finalement, d'une certaine manière, brouiller les pistes.
Voilà, donc c'est finalement au fur et à mesure du temps qui va passer qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a un danger de mort pour ces enfants à rester aussi, finalement, au sein de leur famille.
Oui. Alors, on va dire que de 40 à 42, la plupart des camps d'internement sont dans la zone non occupée. Donc, c'est surtout, une volonté d'améliorer le sort quotidien de ces enfants. Et à partir de l'été 42, au moment où il y a les grandes rafles et puis la collaboration effective meurtrière de Vichy avec les nazis, là, les associations prennent conscience qu'il faut sortir le maximum d'enfants pour éviter qu'ils soient déportés, comme vont l'être leurs parents au cours de, juillet, août, septembre 42.
Alors peut-être qu'on peut aussi revenir, Pierre-Jérôme Biscara, sur la personnalité et le parcours de Sabine et Miron Zlatin, qui vont effectivement être les fondateurs de cette maison d'enfants. Et puis ensuite, donc Sabine Zlatin, qui sera celle qui va mettre en place ce mémorial, finalement.
Oui. Alors Sabine Zlatin, elle est née en 1907 à Varsovie, dans une famille juive, et elle décide de partir, elle fuit un petit peu son milieu familial, et elle arrive en France en 1926. Elle arrive à Nancy, elle rencontre son futur mari, Miron Zlatin. Elle va suivre des études d'art, et puis son mari lui fait des études d'ingénieur agricole. Ils vont monter une petite exploitation dans le nord de la France. Et ils sont naturalisés français, je crois, le 26 juillet 1939, plus d'un mois avant le début de la guerre. Voilà.
Alors peut-être qu'il faut redire encore que donc il y a près de 14 000 enfants qui vont mourir donc suite aux déportations et à la Shoah en France. Et donc il faut de nouveau évoquer cette rafle du 6 avril 44 donc qui a vu les enfants de la colonie d'Izieux déportés avec leurs éducateurs. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait probablement d'une dénonciation. Qu'est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui ? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire des enfants d'Izieux. On sait que c'est un ordre de Klaus Barbie qui a fait procéder à l'arrestation.
Alors, la culpabilité de Barbie, elle est établie, pas tellement par les témoignages, mais surtout par un téléx, qui s'appelle le téléx d'Izieux, que Klaus Barbie envoie à ses supérieurs à Paris, et que Klarsfeld avait retrouvé dans les archives du CDJC. Alors, sur la question de la dénonciation, aujourd'hui, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Qu'on ne sait pas grand-chose, parce que Barbie a pu obtenir l'information selon laquelle il y a des enfants juifs à Izieux, soit par la voie d'une dénonciation. Mais alors, si c'est une dénonciation, est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est oral ? Est-ce que c'est une ou plusieurs dénonciations ? Et aujourd'hui, maintenant que l'on sait que cette maison était parfaitement légalement installée aux yeux de Vichy, est-ce que Vichy transmet l'information à la Gestapo, ou est-ce que la Gestapo va se servir dans l'administration de Vichy, ou est-ce que c'est une information transmise par le commissariat général aux questions juives? On a toutes ces hypothèses. Au moment du procès Barbie en 1987 à Lyon, les gens étaient allés un peu vite en disant telle personne, et il y a trois personnes qui avaient été suspectées de dénonciation au lendemain de la guerre. On n'a jamais pu prouver vraiment leur culpabilité. Pour l'un d'entre eux, une implication, mais est-ce que c'est lui qui donne l'information? On n'en sait vraiment rien. Mais ce qui est assez fondamental, c'est de comprendre que cette maison était légale. C'est-à-dire qu'aux yeux de Vichy, tous les éducateurs juifs étrangers de cette maison sont assignés à résidence. Ça veut dire que dès qu'ils se déplacent, il faut qu'ils préviennent la mairie, la gendarmerie qui prévient la sous-préfecture qui prévient la préfecture qui prévient la préfecture de région et la préfecture de région qui prévient le ministère de l'Intérieur. Donc ils sont parfaitement contrôlés. On est vraiment dans cette logique de contrôle et d'exclusion du régime de Vichy. Et comment Barbie obtient cette information ? Probablement, à mon avis, quelque chose d'assez complexe. Je pense qu'il a obtenu peut-être l'information par le biais du commissariat général aux questions juives. Mais voilà, j'ai envie de dire, je dis toujours aux élèves qui viennent à Izieux, je sais que je ne sais pas. Voilà.
Alors on sait, il faut le répéter, qu'aucun des enfants déportés n'a survécu à cette déportation. Donc très vite, Sabine Zlatin, qui n'était pas là le jour de l'arrestation, qui a pu échapper au sort que les autres ont subi, donc fait poser une plaque sur la maison après la guerre. Il y a en 1946 une grande cérémonie qui commémore la mémoire de ces enfants d'Izieux. Et puis assez vite, la mémoire officielle oublie totalement les enfants d'Izieux, comme elle oubliera d'ailleurs la question juive pendant assez longtemps dans la problématique de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement les grandes étapes de ce retour de la mémoire des enfants d'Izieux ?
Voilà. Alors, c'est vrai que la mémoire d'Izieux, les premières personnes à s'occuper vraiment d'Izieux au lendemain, dans l'immédiate après-guerre, c'est Sabine Zlatin, qui en juillet 1945 écrit directement au préfet de l'Ain en lui disant qu'il faut apposer une plaque sur la maison. Ça va être fait le 7 avril 1946, dans une grande, grande cérémonie. Il y aura le ministre des victimes de guerre, Laurent Casanova. Les journaux parlent de 3000 personnes sur le site. Et ensuite, effectivement, ça tombe dans l'oubli, national. La mémoire juive en général, de toute façon. Et c'est la mémoire de la résistance qui domine. Et ce qui va changer la donne, c'est au début des années 70, c'est Serge et Beat Klarsfeld qui vont éviter que le dossier Barbie soit fermé à Munich. Le dossier va être transféré en France. Et Serge Klarsfeld et Beat vont se battre pour faire arrêter Barbie et que Barbie soit extradée. Et ce que je trouve assez intéressant, aujourd'hui tout le monde connaît très bien Serge Klarsfeld quand on s'intéresse à ces questions, mais à l'époque, au début des années 70, ils sont seulement quelques-uns, ils sont finalement pas très nombreux, et finalement ils vont continuer à se battre, ça va durer 10 ans, et en 83, Barbie est arrêté, il y a un changement démocratique en Bolivie, il y a un changement de président, le conseiller pour l'Amérique latine à l'Élysée, c'est Régis Debray, et en 73, Régis Debray et Serge Klarsfeld avaient voulait enlever Klaus Barbie en Bolivie, puis ça avait finalement été annulé. Et là, donc en 83, c'est le bon moment, Barbie est arrêté, extradé vers la France, et le procès Barbie a lieu du 11 mai 87 au 4 juillet 87. C'est un procès donc très important, qui a un écho national, international, et c'est à partir de ce moment-là qu'Izieux finalement revient, Izieux et d'une certaine manière la mémoire juive, revient dans l'espace public. On est, je crois, c'est en mars 88, il y a les premiers statuts qui sont posés pour l'association, pour la création du musée mémorial des enfants d'Izieux. Et en 94, le 24 avril 94, le mémorial est inauguré par le président de la République. Voilà. Finalement, les deux personnes qui ont joué un rôle absolument majeur pour la mémoire d'Izieux, c'est Serge Klarsfeld, parce qu'il est à l'origine de l'arrestation de Barbie, parce qu'en 84, c'est le premier à publier Les enfants d'Izieux, une tragédie juive. Et puis ensuite, Sabine Zlatin qui, va porter le projet de la Maison d'Izieux.
Alors donc, effectivement, c'est les années 90 qui vont voir la naissance de ce mémorial des enfants d'Izieux. Alors si on se penche sur les missions de la Maison, alors il faut tout de suite introduire, vous l'expliquez bien dans votre article, une nuance entre histoire, mémoire et transmission, et donc le parcours muséographique de la Maison est scindé en deux étapes. Il y a donc histoire et mémoire. La Maison est une évocation de la mémoire des enfants à travers les traces de leur absence. Et dans la grange, donc vous dites qu'il s'agit de la grange, une exposition explique le contexte, les faits historiques, la notion de crime contre l'humanité. Donc il s'agit de comprendre et de ressentir, mais en séparant ces deux axes.
Oui, oui, et puis c'est quelque chose qui fonctionne bien avec les élèves. On leur dit bien, voilà, vous allez visiter il y a deux bâtiments. Un bâtiment, donc, la grange, où on replace le Izieux dans le contexte de l'histoire. Il y a des parcours de famille, c'est-à-dire c'est la petite histoire dans la grande. Mais ça reste très historique, avec une ouverture sur la notion de crime contre l'humanité, puisque le thème muséal d'Izieux, c'était les enfants d'Izieux et le crime contre l'humanité. Donc ça, c'est pour la grange. Et ensuite, il y a la maison dans laquelle vraiment vivaient les enfants, où là, il n'y a pas de grande date, pas de grand personnage, c'est des lettres, des photos, des dessins des enfants. Et nous, c'est ce qu'on appelle le lieu de mémoire. Et quand on donne ces clés à des élèves, je vous assure que ça se passe très très bien, parce qu'ils comprennent, ils font bien l'articulation. On n'oppose pas histoire et mémoire, au contraire, on les articule. Et pour, j'allais dire, transmettre cette histoire, faire réfléchir les élèves, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et puis Izieux est dans un site absolument remarquable. Donc là aussi, il y a à la fois les bâtiments, mais il y a aussi c'est un lieu vraiment très fort.
Et donc justement, on parle souvent de l'impact qu'ont par exemple les voyages à Auschwitz sur les jeunes élèves, sur les collégiens, les lycéens. Là, on imagine aussi que ça doit être une visite qui doit être assez forte pour ces jeunes enfants, pour ces adolescents. Comment vous faites justement pour faire en sorte que la réflexion puisse se faire, que l'émotion puisse malgré tout être présente, mais sans que l'émotion n'entrave la réflexion?
Alors d'abord, sur les lieux, que ce soit Izieux ou Auschwitz, des élèves qui arrivent en masse, ça ne marche pas. Et surtout, ce qui ne marche pas, c'est quand les élèves ne sont pas préparés. Les lieux, je pense, ne se découvrent pas. Il faut y aller, c'est Lanzmann qui disait ça, il faut y aller vraiment gorgé de savoir. Pas trop non plus, il ne faut pas écraser l'élève de trop de savoir. Mais il faut quand même qu'il y ait une préparation, pas forcément, par exemple, sur Izieux, mais sur le contexte, mais qu'il y ait un projet pédagogique. Là, ça se passe toujours très bien. Ensuite, sur la manière de fonctionner, nous, en tout cas à Izieux, on est opposé finalement à une pédagogie du choc. Voilà. Et Izieux, comme la muséographie est faite, finalement, la mémoire plutôt le crime des enfants, c'est en creux. Donc ça laisse finalement, on rentre dans cette histoire par la vie, et ça laisse de la place pour la réflexion. On ressort d'Izieux, finalement, debout. Et c'est ça qui est important, en tout cas, de ne pas choquer les élèves et de leur permettre de respirer. Moi, je ne crois pas du tout à la pédagogie du choc.
Alors, il y a un autre élément important de ce que doit donc transmettre la maison d'Izieux. C'est donc la partie consacrée à la notion de crime contre l'humanité, donc le développement de la justice internationale. On voit effectivement l'importance, notamment par exemple avec cette maison d'Izieux, l'importance qu'ont pu avoir ces grands procès dans la mémoire collective, dans l'évolution de cette mémoire collective. Et donc, l'importance qu'il y a à faire comprendre l'impact que peuvent avoir ces grands tribunaux internationaux et ces grandes cours pénales.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a cette ouverture sur le crime contre l'humanité qui a été voulue. Mais avant tout, quand même, pour le sujet central, ça reste la Shoah. Et comme le dit Georges Bensoussan, la Shoah, ça reste un fait d'histoire. Et finalement, l'une de notre première mission, finalement, c'est de faire de l'histoire et de transmettre des faits historiques. Après, les élèves, que ce soit des collégiens ou des lycéens, forcément, ils font le lien avec l'actualité. Et là, la manière dont on a choisi finalement de répondre à ce lien qui est fait avec l'actualité, c'est le crime contre l'humanité, les grands procès. Voilà. D'autant plus qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu le procès Barbie, il n'y aurait pas eu la maison d'Izieux. Donc, et ça permet de réfléchir sur les juridictions à la fois nationales mais internationales, la Cour pénale internationale. Voilà. Mais si des sujets, dès qu'on touche à ces sujets-là, ça devient tout de suite très brûlant, très délicat. Il faut faire très attention. Voilà.
Alors vous avez justement parlé de faits scientifiques. Ce qui est très intéressant dans votre article, vous insistez sur l'importance de la transmission des faits historiques comme faits scientifiques. Historique comme vérité tangible et du fait qu'il faut bien distinguer ces faits des opinions. Donc j'imagine que tout ça, c'est une manière d'armer, de prévenir ces futurs adultes contre les négationnismes et les révisionnismes.
Oui. Puis j'allais dire, même si on parlait, alors moi là je faisais allusion dans l'article, effectivement on est au négationnisme, mais même si on, sans parler des négationnistes, la Shoah est un fait d'histoire, il faut tout simplement faire de l'histoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on emmène des élèves justement en Pologne, quand ils viennent à Izieux, d'essayer d'être le plus, de pas tomber dans la mythologie ou un catéchisme mémoriel, et essayer de vraiment de, voilà, d'avoir, c'est ce que j'ai dit, d'avoir finalement, on va dire, transmettre des faits, transmettre des valeurs et faire réfléchir les élèves. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Ça changera peut-être plus tard. Mais enfin, je crois que sur le fait d'histoire, il faut faire... Auschwitz doit être historicisé. La Shoah doit être historicisée au maximum, à mon avis. Alors, c'est peut-être un point de vue un peu trop positiviste. Mais moi, je suis très attaché à ça. Voilà. Tenons-nous-en aux faits. C'est des faits qui sont assez compréhensibles, enfin très difficiles à concevoir, assez insupportables. Mais ça reste des faits. Ayons au moins comme base de nous en tenir à ces faits.
Et justement, vous avez donc mis en place à Izieux ce service pédagogique avec des enseignants qui travaillent effectivement sur la manière dont on peut expliquer, dont on peut faire passer, dont on peut transmettre. Est-ce que vous avez comme ça dégagé peut-être des choses un peu essentielles qui sont nécessaires à cette transmission?
Vous voulez dire sur les modalités de transmettre?
Oui.
Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de croiser les lieux avec les témoignages, avec les documents. Voilà. Et puis bien sûr, croiser aussi les disciplines. Voilà. Et finalement, de pas opposer l'histoire à la littérature, mais plutôt de le prendre de manière complémentaire, ou l'art. Là, tout à l'heure, je suis allé voir justement au musée d'histoire d'art et du judaïsme l'exposition du peintre Félix Nussbaum, qui est absolument extraordinaire. Et en la voyant, finalement, je me disais, mais c'est des supports pédagogiques absolument extraordinaires pour les enseignants. Voilà, croisons l'histoire, croisons l'art, si possible, le faire sur des lieux, mais toujours avec cette idée de préparation, de projet pédagogique. Voilà. Et bien sûr, croiser les disciplines. Moi, je suis historien de formation, mais finalement, plus j'avance dans cette question, plus je me sers de la littérature, du cinéma, de la peinture pour essayer d'approcher cette réalité historique.
Il y a une autre mission qui est prise en charge par la Maison des Enfants d'Izieux, donc c'est cette nécessité de constituer un centre de documentation, de réunir des archives, des témoignages, et vous avez notamment constitué un recueil de témoignages vidéo d'anciens de la colonie qui, eux, n'ont pas été déportés.
Tout à fait. En juin 2002, la Maison d'Izieux avait réuni une quinzaine d'anciens d'Izieux. Pendant tout un week-end, on les a interviewés. Des entretiens qui ont duré 2 à 3 heures. Et alors, non seulement ils nous ont... vous passez toujours comme ça un test avec les témoins. D'abord, ils veulent vous connaître. Et on a recueilli leurs témoignages. Et l'un d'entre eux, notamment, le dernier soir, nous avait remis à table une grande pochette. Il a vidé la pochette sur la table. Et il y avait 24 photographies de la maison d'Izieux, légendée au verso, avec des identifications finalement d'enfants, des dates. Voilà, et ça nous a permis là aussi d'enrichir l'histoire et la mémoire d'Izieux, hein, et de recouper là aussi les témoignages avec les documents écrits quand c'est possible. Et et notamment là-dessus, par exemple sur la période de l'internement, de leur passage dans les camps d'internement. Finalement, c'est assez simple de recouper parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'archives sur... Vichy avait vraiment ce soin de contrôler les Juifs en France et les Juifs étrangers notamment. Et finalement, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses sur des parcours individuels dans les archives départementales, aux archives nationales. Il y a encore, je pense, de vastes trésors à découvrir et à exploiter pour écrire la persécution des Juifs en France.
Alors, je voulais, Pierre-Jean Biscara, qu'on évoque aussi la formation des enseignants, puisque vous avez beaucoup aussi de demandes d'enseignants qui veulent des méthodes, qui veulent une manière d'approcher, de transmettre cette question de la Shoah, une question qui est de plus en plus, une demande qui est de plus en plus forte chez les enseignants. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place à la maison?
Alors, on a mis en place des formations pour des enseignants et des professionnels des musées, puis d'autres personnes, mais majoritairement, c'est les enseignants et des gens qui travaillent dans les musées. Et on a mis en place un séminaire d'études sur l'État juif de Cracovie et le camp d'Auschwitz. Alors ça se fait sur une semaine, et c'est finalement c'est une visite historique des lieux, en essayant de donner aux enseignants à la fois un contenu historique, et puis aussi finalement une méthode pédagogique, comment finalement on peut exploiter de manière pédagogique ces lieux avec des élèves. Alors on a fait ça pour la Pologne avec Auschwitz et Cracovie. Ma collègue Stéphanie Boissard travaille, elle, sur la mémoire juive en Italie, la mémoire juive et la mémoire de la résistance en Italie. Et un autre de mes collègues, Philippe Quintin, a mis en place, avec ma directrice Geneviève Ramuspé, un séminaire sur le camp de Térésine et l'État juif de Prague, voilà, qui a eu lieu là en août dernier. Et il y a quelque chose qui devrait se faire aussi sur la mémoire à Berlin. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes d'enseignants pour avoir des formations de haut niveau sur ces questions-là. Le Mémorial de la Shoah à Paris font aussi d'excellents séminaires. Et d'ailleurs, souvent, les enseignants font un séminaire à Izieux, un séminaire au Mémorial de la Shoah. Et on a vraiment une demande des enseignants pour avoir justement un besoin à la fois d'histoire, des méthodes pédagogiques. Et voilà, et aujourd'hui, finalement, il y a des structures dans chacun de ces lieux qui sont susceptibles de nous accueillir. Et voilà. Mais cette formation des enseignants, c'est quelque chose d'absolument, à nos yeux, de fondamental.
Alors, pour finir brièvement, est-ce que vous pouvez nous évoquer le projet de modification de la muséographie de la Maison d'Izieux qui est en cours?
Alors, il y a un projet d'extension, voilà, où on aura finalement plus de salles pédagogiques, parce que la manière dont on fonctionne à Izieux, on accueille les élèves. J'ai par exemple sur une journée, il y a une demi-journée de visite et une demi-journée de travail en atelier sur des thèmes historiques. Et on a de plus en plus de monde. La fréquentation, 10 ans, on est passé d'à peu près de 7000 élèves à 15000 élèves. Et on a besoin de place, on a besoin de salles pédagogiques pour travailler. Là, on fonctionne, ça reste quand même un petit peu du bricolage. Voilà. Pas ce qu'on fait, mais...
On avait bien compris.
Les besoins matériels se font vraiment, vraiment ressentir. Et puis, en même temps, c'est l'occasion aussi de refonder la muséographie, voilà, d'essayer de développer justement les nombreux apports historiques qu'on a sur la Maison d'Izieux. On a retrouvé de très, très nombreuses photographies de la colonie. Ça serait une façon de les exploiter. Et une manière, là aussi, finalement, de réaborder certains thèmes comme la responsabilité de la France dans cette histoire-là. Notons vous dire que depuis 1994, la notion de crime contre l'humanité et les crimes, il y en a eu, et voilà. Donc ça aussi, ce sont des choses à réactualiser. Donc là, c'est un travail aujourd'hui en cours.
Merci encore. Je rappelle, Pierre-Jérôme Biscara, que vous êtes historien, auteur d'un livre consacré aux enfants d'Izieux paru chez Michel Lafon l'année dernière, et que vous êtes en charge du service pédagogique de la Maison des enfants d'Izieux. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.